Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malade.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Pétate-toi.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission.
On avait dit sérieux, les filles,
là. C'est vos
ambitions. Bien, chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Nous sommes ici en direct du pavillon Saint-Sauveur à Lille, dans le cadre d'une conférence organisée par la Fédération de Recherche en Santé Mentale du Nord-Pas-de-Calais. Et cette fois-ci, la thématique, c'est troubles mentaux et exclusion, le point de vue de l'entourage. Alors ce soir, donc, nous avons quand même plusieurs invités. Je cite, donc, on a déjà devant nous le docteur Jacques Louvrier, qui est psychiatre et président de l'association Le Cheval Bleu. Nous aurons Frédéric Leuchter-Fleck, qui est maître de conférence et qui est en littérature, éthique et histoire des idées, à Nanterre. Ensuite, nous aurons David Humez, qui n'est pas accompagné par le docteur Jacques Louvrier, qui est infirmier, qui devrait aussi intervenir dans le même cadre sur l'équipe mobile Association Le Cheval Bleu. Jean Roche, qui va intervenir sur l'exclusion et la maladie de l'Alzheimer, qui est donc géronto-psychiatre. Alors, merci docteur Louvrier d'être ici présent pour une petite interview avec les entonnoirs. Ce soir, vous avez été invité dans Troubles mentaux et exclusion. D'abord, que faites-vous et pourquoi être dans ce cadre-là invité sur cette thématique ?
Pourquoi invité sur la thématique ? Parce qu'on m'a invité. Je me suis pas invité tout seul, on m'a demandé de venir.
Bien entendu, mais c'est quand même un sujet particulier.
On a quand même un certain métier, certaines expériences dans le travail sur le terrain avec des gens qui sont en exclusion quand même depuis pas mal d'années. Et dans le Pas-de-Calais, parce qu'en fait sur l'île, à ma connaissance, il y a quand même pas mal d'équipes qui sont créées, qui font ce qu'on fait, mais curieusement dans le Pas-de-Calais, jusqu'à présent, on est la seule équipe constituée.
Et qu'est-ce qu'elle fait exactement votre équipe ?
Alors,
quel est son but ?
Il y a le cheval bleu, il y a l'équipe mobile. L'équipe mobile, c'est une composante du cheval bleu. Le cheval bleu, c'est plus vaste. Alors, cheval bleu, ça a été créé en 2004, 2005, je ne sais plus bien, avec l'idée qu'il fallait, au niveau psychiatrique, qu'on se rapproche des gens, qu'on se rapproche de la vie, qu'on se rapproche du terrain, qu'on se rapproche de la vraie vie, hein, dans la mesure où... la psychiatrie avait évolué, elle se médicalisait, elle se trouvait quand même dans un système de soins qui était beaucoup moins ouvert que ce que moi j'avais connu au départ. Donc on éprouvait le besoin d'avoir quelque chose qui s'ouvre sur l'extérieur. Donc on a commencé par plusieurs choses. On a commencé par un club. Alors j'entendais tout à l'heure, on parlait de patients. Chez nous, il n'y a pas de patients. C'est pas un mot qu'on dit. Les gens viennent. Qu'ils aient ou non des troubles n'est pas notre affaire. Hein. Et rien de ce qu'on fait n'est thérapeutique. Si c'est, ça les soigne, tant mieux pour eux. Mais on n'a pas d'objectif thérapeutique. Donc ça soigne, forcément, mais ça soigne implicitement.
Et il nous dépasse, le docteur Louvrier, là.
Donc il n'y a pas, y a pas de patient. Ça, c'est un truc important. C'est-à-dire que pousse la porte celui qui veut. Hein. On a commencé par un club. Le club, c'est un endroit où pousser la porte celui qui voulait. Hein, et c'est curieusement un endroit où il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est un endroit en creux. Nous, on n'apporte pas grand-chose. C'est la vie qui s'y crée qui est importante. On fait guère que faciliter. On n'entoure pas, on n'anime pas, on ne crée pas, on donne, on n'a pas d'initiative. L'emballage est vide et c'est aux gens de le remplir.
Et justement, est-ce qu'il y a une parole de ces patients? Est-ce que ces gens vous parlent?
Ce ne sont pas des patients, enfin, ce sont des gens.
Ces gens.
Excusez-moi
de ce terme.
On papote, on boit le café, on s'amuse, on rigole, mais ce ne sont pas des patients.
Mais alors, docteur, mais que viennent faire ces gens?
Ils viennent nous voir parce qu'ils sont contents de nous voir. Ils viennent nous voir, nous n'allons pas les chercher. Ils viennent nous voir. On invite personne à venir. Les gens viennent parce qu'ils ont envie de venir.
Et donc, ils se mettent à parler, il y en a qui...
Ils font ce qu'ils veulent, il y en a qui parlent, d'autres qui ne parlent pas.
D'accord. Et donc, l'équipe en elle-même est composée de...
Il n'y a pas d'équipe. Alors, bon, ça c'est... Alors, attention, on est sur un concept différent. Ça, c'est le club. Il n'y a pas que le club. Alors, on fait d'autres choses. On a des appartements. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'appartements qui sont des colocations qui sont supervisées par un petit bout d'équipe, assistante sociale, éducatrice. On a un SAMSA. Vous savez ce que c'est qu'un SAMSA ? Ça, alors. C'est un service d'accompagnement médico-social, ambulatoire, des gens qui ont un handicap psychique. C'est-à-dire, c'est l'accompagnement des gens qui ont une difficulté à vivre dehors du point de vue médico-social. Donc c'est l'autre bout de la chaîne, la psychiatrie étant dans un autre domaine qui est celui d'apporter du soin. Donc les deux fonctionnent ensemble. Il faut les deux. On peut pas soigner quelqu'un qui n'a pas une vie. Et le fait d'avoir une vie ne suffit pas à aller bien. Enfin bon, il faut les deux. On a un SAMSA, on a les appartements, on a des ateliers de préinsertion. C'est-à-dire que viennent dans les ateliers de préinsertion des gens qui n'imagineraient pas pouvoir travailler un jour, et qui découvrent le fait qu'ils sont capables, que ce qu'ils font n'est pas mal, que peut-être qu'ils peuvent aller plus loin, et éventuellement certains arrivent à participer à un atelier chantier d'insertion, des choses comme ça, ou à d'autres actions de formation. Qu'est-ce qu'on a ? On a une résidence accueil, 20 studios pour des gens qui sont des exclus, avec des grosses difficultés d'autonomie, des troubles psychiques. On a l'équipe mobile. L'équipe mobile, donc, c'est une partie du dispositif. L'équipe mobile, c'est une équipe de 3 infirmiers qui ont la particularité, comme toutes les équipes mobiles, d'intervenir non pas à la demande des gens, mais à la demande des tiers. C'est-à-dire que des gens de la population, des maires, des tuteurs, des voisins trouvent que c'est un scandale, ça peut pas durer comme ça. Madame Machin, elle crie à la fenêtre, elle veut pas se soigner, ou chez elle, ça pue, etc. Avec toujours l'idée que derrière une situation comme ça, quelqu'un est malade. Donc l'équipe mobile est interpellée pour essayer d'identifier s'il y a une maladie et éventuellement de mettre du soin.
Bruno ?
Oui, bonjour docteur. Bonjour. Je crois que chaque malade, enfin chaque personne qui, excusez-moi, je me suis trompé, chaque personne qui vient est un cas individuel. Donc vous confirmez à chaque cas. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces cas ou c'est vraiment il n'y a pas de point commun ?
Ben, oui, il y a un point commun. Enfin, il y a beaucoup de points communs. L'un des points communs, c'est quand même d'être en grande difficulté pour mener sa vie dans la vie extérieure. C'est-à-dire que, pour plus une série de raisons, c'est l'isolement, c'est des conditions de logement désastreuses, c'est des conditions économiques. Enfin, tout ce qu'on appelle la précarité, quand même. Hein. C'est-à-dire que la précarité, c'est pas seulement ne pas avoir beaucoup d'argent. C'est d'être fragile dans son insertion dans tous les domaines. Bien hein. Sûr. Donc c'est ces personnes-là qu'on rencontre, et toujours quand même avec l'idée que derrière tout ça, ce sont des gens qui sont psychologiquement fragiles. C'est-à-dire que, à contrario, on ne va pas accompagner des gens qui sont fragilisés parce qu'ils ont un handicap moteur, ni un handicap sensoriel, ni un handicap mental, c'est-à-dire un déficit. Non pas qu'on ne veut pas, mais je veux dire que d'autres gens font ça beaucoup mieux que nous et on les envoie à ceux qui sont spécialisés là-dedans. Nous, c'est vraiment les personnes qui sont fragilisées psychiquement. Alors fragilisées, pas forcément malades ou qui l'ont été, ou etc. C'est pas des patients.
Les gens manquent de, il faudrait peut-être les aider à trouver des repères, eux-mêmes des repères peut-être.
Ben oui. Ce qui se passe dans le club, c'est intéressant le club parce que c'est le noyau de l'association. Dans le club, des gens commencent à avoir des envies ensemble. Un petit exemple qu'on voit couramment, c'est bah tiens, si on se faisait à manger un couscous dans 15 jours. Bon, à partir d'une envie comme ça, nous on facilite les choses, mais l'envie c'est, on va pas dire tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, on va vous proposer un couscous. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si l'envie arrive, on va faciliter les choses. Les envies, ça va beaucoup plus loin. Il y a eu des envies de partir au sport d'hiver. Il y a eu des envies d'aller passer 8 jours en vacances quelque part. Faut bien savoir qu'on n'accompagne pas. Les gens, ils vont en autonomie. On facilite, éventuellement on cofinance pour certains aspects. On organise, on est disponible, etc. Mais quand les gens partent en vacances, ils partent seuls. On n'a pas, il n'y a pas d'infirmiers pour les accompagner. Ça a été pour des professionnels une décision compliquée à prendre, le fait de laisser des gens partir sans les accompagner. Hein. Et puis, ben, bizarrement, ça marche aussi bien que quand on est là, même mieux d'ailleurs.
Johan.
Oui, bonjour monsieur. Docteur, pardon. Vous nous parlez de votre association, de votre façon de travailler, tout ça. Et moi, quand je vois que vous faites partie d'une association, le Cheval Bleu, donc j'ai peut-être pas tout compris parce que j'étais en train de faire de la technique tout à l'heure, donc j'ai un peu zappé le début de l'interview, mais je réécouterai. Mais ma question est la suivante. Est-ce que dans une société, on a tous la société en commun? On a des perceptions différentes, mais on a quand même une société commune, une sorte de matrice. Est-ce que vous pensez pas que l'action du soin, même si vous ne dites pas le soin, elle est pas suffisante et que dans un système qui prône la compétitivité, la flexibilité et qui pervertit le mot de sécurité, c'est inévitable qu'il y ait des souffrances psychiques et que c'est peut-être entre guillemets normal qu'il y ait des individus qui ont des souffrances, enfin qui ont des faiblesses par rapport à ce système que moi je considère dangereux.
Oui, non, mais oui, c'est, bah, la vie est de plus en plus compliquée. Si les gens étaient comme il y a 50 ou 100 ans en train de cultiver leur jardin avec deux vaches et avec quasiment pas d'obligation de faire plus que ce que leurs parents faisaient, ça va. Le problème, c'est que voilà, on n'est pas à ça. La vie est horriblement compliquée. Donc beaucoup de gens qui ont des difficultés sont en échec dans la vie en général, oui. Ça, c'est évident.
Parce que si moi je me pose ces questions, c'est que je suis anti-dépresseur. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis contre le fait que on soigne les maux de l'âme par des pilules. Bien sûr, ça doit être accompagné. Bon, il y a les psychothérapies, tout ça. Mais vous pensez pas que c'est un peu une chimère, l'antidépresseur en tant que cachet, quand on prend conscience qu'en fait c'est juste on traite les symptômes à peut-être court terme, mais pas les causes profondes.
Oui. Bon, d'abord, on peut qu'être d'accord. Un antidépresseur n'est pas efficace beaucoup dans les études cliniques. On sait bien que pour distinguer un antidépresseur d'un placebo, la distinction se fait sur quelques petits pourcents. Hein, donc, on sait très bien que ça ne va pas renverser une situation. Faut pas oublier non plus que si on parle en termes de souffrance, si on a une analogie avec une douleur physique, mal à la tête ou mal au ventre, peut-être que la vie va mieux lorsqu'on a moins mal. Bon, moi je pense que si quelque chose peut soulager une souffrance, autant s'en servir.
Je voulais savoir, aujourd'hui vous allez faire part de votre expérience en tant que médecin par rapport à tout ce que vous faites, et je voulais savoir... Par rapport au thème de ce soir, par rapport à l'exclusion, vous allez faire un constat, et quel est le constat que vous faites en tant que médecin psychiatre? Quel va être votre propos ce soir?
Constat. Bon, on va essayer de présenter deux situations, enfin deux infirmières de notre équipe vont présenter chacune une situation qui les a touchées. On est quand même parti de l'idée qu'on est... On peut pas être dans une situation de précarité drapé derrière un métier qui va tout nous apprendre. On est forcé d'être en prise en tant que personne avec ce qui se passe. Donc on va présenter deux situations, bon, et puis essayer de réfléchir un petit peu dessus. On retrouve quasiment la thématique du livre. C'est-à-dire que ceux qui nous claquent dans la figure, c'est des réalités de la vie, et on les prend en tant que personne, on les prend pas en tant que professionnel.
Alors il y a certainement une grande réflexion derrière pour arriver à dire les gens et non plus les patients, parce que vous êtes médecin psychiatre, vous nommez tel que, alors je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est pour déstigmatiser? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est pour pas nommer?
Non, voilà. C'est plus alors, simple que ça, allez. C'est une question de terrain. Quand moi je suis psychiatre de secteur, j'ai toujours été, quand à l'hôpital c'est des patients. Mais quand on est en dehors de l'hôpital, c'est des gens.
Oui. Excusez-moi, je vais juste rebondir sur... Mais non, attendez, oui, il y a cette logique, mais je suis infirmier de secteur, je travaille en CMP, et effectivement, je nomme les personnes que j'accompagne quand on est patient. À un moment donné, parce qu'ils sont suivis, effectivement, tout doucement, avec une réflexion, je me dis, il faut se détacher de ça pour pouvoir les laisser... tout doucement puisqu'on parle de citoyenneté, ne pas les coller comme ça à cette étiquette de malade en permanence. Je suis d'accord. Mais si vous en êtes arrivé là, c'est qu'il y a eu, dû avoir un long cheminement.
Oui, forcément. Bon, moi, je me suis pas levé un matin en me disant tiens, qu'est-ce que je vais inventer aujourd'hui.
Je suis d'accord. C'est pour les auditeurs surtout. Hein.
Mais bon, il y a. C'est pas un cheminement seulement personnel, c'est un cheminement collectif. Je pense qu'on a fait un travail en équipe. Les gens avec qui je travaille, je les connais depuis 10, 15 ans, 20 ans. Hein. C'est pas, il y a pas de secret. Donc il y a un chemin qu'on a fait ensemble. L'histoire, le fait de pas dire patient, c'est pas une coquetterie. C'est parce que si j'étais dans mon métier de psychiatre de secteur, je ne dirais pas ce que je dis là. Mais à partir du moment où on s'occupe par l'autre bout de permettre aux gens d'avoir une place dans la vie, d'exister en tant qu'individu, le soin, c'est pas nous qui le gérons. Je suis pas leur médecin. Donc, n'étant pas leur médecin, ce sont pas mes patients. Donc, ce sont des gens qui viennent me voir, qui viennent nous voir. Si je les soigne de surcroît parce que j'ai une consultation, ils sont mes patients durant le temps de la consultation. Quand je les croise au bistrot ou dans la rue, c'est pas forcément mes patients, c'est des gens.
Entièrement d'accord.
Johan,
je vais me permettre de vous remercier de nous avoir accordé ces quelques mots. Juste peut-être préciser un moment, dans une des réponses, vous parlez de vous avez dit, j'ouvre les guillemets, thématique du livre. Vous avez publié un livre, quelque chose?
Non, c'est dans le
Laboratoire des quatre consciences.
Voilà, c'est d'accord. Ça. Dans l'argumentaire de la journée, ça d'accord. Part quand même d'un texte qui a été écrit par
Frédéric Lechter. Hein.
Voilà.
Voilà. Mais je vous remercie de nous avoir accordé ces paroles.
C'est moi qui vous remercie, c'est sympathique.
Merci.
Change. wish you were here.
Bien, bonjour madame. Donc nous avons le plaisir de vous recevoir ici au Palais Saint-Sauveur dans le cadre Exclusion et Santé Mentale organisé par la Fédération de Recherche en Santé Mentale. Et donc on vous remercie de pouvoir répondre à nos petites questions. Et la première qui nous vient à l'esprit, c'est qu'est-ce que vous venez faire ici à Lille dans le cadre de la de cette thématique exclusion et santé mentale, et vous présenter bien sûr. Merci.
Bonjour à vous et merci de m'avoir sollicité pour cette émission. Donc je suis Frédéric Lechter-Flack, je suis philosophe et j'enseigne l'éthique également à l'université à Paris. Je suis venue pour opérer un déplacement dans le questionnement qui est le nôtre ce soir, en faisant intervenir la fiction, en faisant intervenir la littérature dans l'affaire, parce que la psychiatrie, la psychanalyse et la littérature ont un territoire commun qui est celui de l'infinie diversité des âmes humaines, l'infinie diversité des manières de vivre, des territoires que l'existence peut parcourir. Et du coup, c'est cette compétence commune qu'on va questionner ici. Qu'est-ce que c'est que raconter sa vie? Qu'est-ce que c'est que raconter la vie d'autrui? Et quels problèmes ça pose? Et à partir de quand on bascule, disons, de l'univers du jugement, où ce qu'on a à dire des autres passe systématiquement sous l'étiquette d'un jugement moral à opérer sur eux, à plutôt une démarche de compréhension, essayer de comprendre ce qui les anime et comment on passe de l'un à l'autre.
Est-ce que la fiction a quelque chose à faire dans la réalité des témoignages des patients? Est-ce que...
Alors, c'est pas toujours, c'est pas toujours ce qu'on trouve dans les romans, par exemple, c'est pas toujours une application directe de ce qu'on peut trouver dans la réalité. Parfois, ça n'a rien à voir, mais voilà. Il y a des questionnements qui peuvent être les mêmes, des attitudes qui peuvent être les mêmes. Par exemple, les nouvelles dont je vais parler ce soir, Bartleby de Melville et la métamorphose de Kafka, ce sont des nouvelles dans lesquelles un personnage, le héros, va se retrouver à l'issue de tout un processus d'exclusion, finalement condamné à mort, sorti complètement du jeu social, sorti de toute société humaine, de tout cercle, y compris du cercle familial, en raison d'une bizarrerie de comportement, en raison d'une attitude limite, borderline, entre la normalité et la folie, en raison d'une maladie. Et quelle est l'attitude de l'entourage? Comment l'entourage prend la chose quand quelqu'un qui était un fils et un frère ordinaire, avec qui on avait des rapports ordinaires, se met à nous échapper complètement au point que la communication avec lui devient impossible? Comment réagit une famille? On n'a pas besoin que le roman ou la fiction nous transpose de manière vraiment directe ce qui se passe dans la vraie vie. Ça peut être déplacé, mais c'est la même manière de soulever les questions.
Oui, moi j'ai remarqué, d'après quelqu'un qui part en délire, bon, l'asté réagit, on ne peut pas lui en vouloir, parce que c'est déstabilisant. Et tout phénomène qui est déstabilisé, il réagit. Pour savoir où va ce phénomène qui est autre. Bon, il y a deux manières de réagir. On peut l'asphyxier, et donc on tue peut-être quelque chose de génial, parce qu'un délire peut être génial, excusez-moi, parce que bon, les inventions se sont faites par des délires aussi. Ou alors, on essaie de dialoguer avec lui. À des moments, c'est pas possible, malheureusement, mais à des moments, c'est possible. Et là, il peut se passer des choses très intéressantes. Qu'en pensez-vous?
Alors, vous avez tout à fait raison. De toute façon, ce que vous appelez le délire, à un moment ou à un autre, ça pose un problème d'acceptabilité sociale. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut fonctionner ou est-ce que ça fait dysfonctionner tout le monde? Est-ce que ça provoque un désordre tel que l'entourage, la société ne peut plus fonctionner comme elle le faisait avant? L'un des textes littéraires sur lequel je vais m'arrêter ce soir, Barthelby de Melville, montre exactement ce qui se passe face à un personnage qui veut pas jouer le jeu. Et même quand on l'aborde avec beaucoup de bonne volonté, de bienveillance, qu'on lui propose de l'aide, qu'on lui propose de l'aider, disons, à se réinsérer, à se réorienter, à canaliser son attitude, eh bien, il refuse cette aide. Qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où on accompagne? Et c'est aussi une question. Le personnage qui se pose cette question se sent extrêmement coupable d'avoir été mis en échec comme ça. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Jusqu'où on accompagne?
Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sortent des circuits officiels et même de la conscience collective, et ils refusent de retourner à la conscience collective parce qu'ils le trouvent débile. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces gens-là? Et ils vivent ça à leur manière. Il y a quelqu'un qui a écrit « Je suis schizophrène et je me sens très bien ». Et est-ce que ces gens-là sont coupables? Et ils écrivent leurs différences en disant, d'une façon peut-être abrupte, ce qui marche pas, et ils sont à montrer de l'annexe, et ce sont des sorciers, enfin on les brûle, quoi, voilà. Et ça, le procès en sorcellerie existe aujourd'hui, je peux vous lire.
Oui, vous avez sans doute raison, je crois que la difficulté c'est de savoir jusqu'où on s'autorise à aider quelqu'un malgré lui. Et s'il a pas envie, et s'il a pas besoin, et si ça lui convient pas ce qu'on lui propose, jusqu'où est-ce qu'on... La société a le droit de s'emparer du cas et de le modeler à sa guise. Et ça, c'est une question qui se pose pas seulement en psychiatrie, hein, qui se pose également dans l'action sociale, par exemple. Est-ce qu'on a la solution? Est-ce qu'on sait le bien des gens malgré eux ou contre eux ou en dépit d'eux? C'est une question qui s'est toujours posée et qu'on traite différemment selon les époques, selon les environnements.
Bonjour. Alors, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de trop préparer cette interview, mais je vous découvre en fait. Mais j'ai pu quand même entendre des choses sur Internet. Une conférence que vous aviez faite sur ce livre, le laboratoire des cas de conscience. Donc, si j'ai bien compris le concept entre guillemets, vous utilisez des situations issues de la littérature pour faire émerger un point de vue sur la situation réelle. Quelle est la nature de ce lien? Je comprends pas très bien où vous voulez en venir et quel est l'intérêt en fait. Je suis sûr qu'il en a. C'est pas.
Ouais, je vais essayer de vous en convaincre. L'idée pour moi, c'est qu'on a parfois besoin du détour de la littérature ou de la fiction pour penser des problèmes difficiles qu'on n'arrive pas à formuler dans la réalité ou dans la vraie vie. Et donc on a besoin de se déplacer, on a besoin, disons, de se situer à un terrain neutre et un terrain gratuit, un terrain qui va pas être coûteux socialement, pour déplacer son regard et faire voir des questions qui étaient toujours là, mais qu'on voyait pas, qu'on prenait pas en compte. Et c'est ce détour-là aussi que permet l'usage des romans, par exemple.
Oui, je reviens tout à l'heure, vous parlez de la société. Pour moi, ça veut rien dire. Quel type de société? Si c'est la société finalement où différemment les noirs sont inférieurs aux blancs, la société, non.
Non, mais ça c'est du préjugé.
Ça existe.
Oui,
la société, il y a une hiérarchisation. Il y a des gens qui sont pour la hiérarchie, des gens qui. C'est multiple la société.
Oui, enfin en même temps aujourd'hui on vit dans une société où. Disons qu'il repose sur un principe d'égalité des vies. Toutes les vies se valent, en principe au moins, en droit.
Oui.
Sinon, en fait, c'est déjà pas si mal que ce soit le cas en droit.
Oui, d'accord.
Et pensez-vous que la littérature peut apporter certaines vérités et la philosophie peut apporter certaines vérités? On sait que la philosophie, ce sont des questions perpétuelles, mais est-ce que vous pensez qu'elles apportent des vérités par rapport à ce qu'on va voir ce soir? Elles vont apporter des vérités, des...
Je crois que la philosophie résonne...
Ou plutôt des réflexions, ouais. Plutôt.
Non, vous avez raison, mais la philosophie résonne aussi sur du cas général. Elle résonne sur des concepts. Et la difficulté quand on rencontre des situations dans la vraie vie, c'est qu'on a toujours des cas singuliers. Et comment est-ce qu'on fait rentrer un cas singulier dans les catégories, dans les grilles d'analyse du cas général pensé par la philosophie, par l'éthique, par la science médicale, Et comment le cas particulier, le cas singulier, déborde toujours de ces catégories. Et je crois que cette singularité, le fait que le cas particulier, c'est jamais exactement comme c'est écrit dans les livres, comme c'est pensé d'avance, il y a toujours une part de singulier, d'inédit, d'inattendu, une part qui déborde, et bien c'est aussi ça que le roman nous permet de penser. Cette part de singularité, cette part de contexte, chaque contexte est différent, chaque personnage est différent, chaque être humain est différent. C'est jamais exactement ce qu'on avait prévu d'avance.
Et je pense que lorsqu'on est malade, la culture, la littérature peut nous aider à faire un pas vers la guérison. Je pense que c'est
alors
un
ça, c'est, ça j'en suis, moi j'en suis convaincue, j'en ai fait l'expérience sur moi-même et je pense ne pas être la seule. Il y a des lectures qui sauvent. Il y a des lectures qui sauvent la vie, qui sauvent qui préservent la volonté de vivre, qui préservent l'envie de vivre, qui réparent des blessures, qui réparent des chagrins d'amour ou des chagrins plus graves encore que des chagrins d'amour. Et ça, c'est sûr que c'est un bénéfice inestimable que celui de la rencontre de ces textes-là qui sont faits pour nous, dont on a l'impression qu'ils ont été écrits pour nous guérir.
Et malheureusement, les exclus, parfois, ils n'ont pas accès à cette culture, à cette littérature, et c'est bien dommage. Alors, comment faire pour qu'ils accèdent Est-ce qu'il ne faudrait pas créer des clubs des ateliers thérapeutiques de littérature dans les CMP, peut-être pour les...
Mais ça me paraît être une excellente idée. La difficulté, c'est que chacun va rencontrer un peu par miracle les livres qui vont lui faire du bien, qui vont l'aider à vivre. C'est difficile de faire des prescriptions générales.
On a toujours quelque chose à dire.
On a besoin d'un interlocuteur.
De parler de quelque chose. On a bien toujours sûr. des repères littéraires. Les bouquins,
c'est... Ou des films, parce que c'est pas forcément des lectures. Ça peut être parfois un grand film vous change pour le reste de votre existence et vous aide à passer une étape, à passer un cap dans votre développement personnel. Et ça a un prix effectivement très très précieux.
Vous parlez des livres qui changent la vie. Il y a aussi des livres, je voudrais compléter, des livres, par exemple, prophétiques. Par exemple, je pense à 1984, et un peu le meilleur des mondes aussi, qualifie de prophétique.
Oui, moi, une dernière question. Vous parlez de société, tout à l'heure, et puis après, vous parlez de singularité de l'être humain. Oui, donc, ça veut dire, ça pose problème, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait la lieu de départ, l'individu ou le collectif? C'est ça le problème. Et c'est le lien qui doit se faire entre les deux qui est pas évident.
Oui, mais je crois que là vous touchez un point qui est absolument essentiel. Qui on soigne finalement, un médecin et en particulier un psychiatre, qui soigne? Est-ce qu'il soigne l'individu? Est-ce qu'il raisonne uniquement dans l'intérêt de l'individu?
Mais l'écrivain aussi est un soigneur.
À un moment ou à un autre, il ne doit pas aussi se demander s'il ne doit pas prendre en compte l'intérêt de la société. Et ça, c'est une difficulté qui est considérable.
Alors, juste pour conclure l'interview, parce que là le monde commence à arriver, ça va bientôt être le moment des conférences. Je vais faire une petite parenthèse, parce qu'on n'a pas tous les jours un philosophe sous la main. Est-ce qu'il existe différentes formes de vérité? C'est une question qui me taraude.
Ça me paraît certain, c'est difficile d'y répondre en 2 minutes à cette question qui est très ample.
Il n'y a que deux vérités provisoires, peut-être.
Il n'y a que des vérités provisoires, sans doute. C'est une belle manière
de
conclure.
On a chacun sa vérité. Et vous savez où j'ai appris ça? J'ai appris ça dans un épisode de Plus belle la vie, qui est actuellement un personnage de philosophe. C'est pour ça que je dis merci à la télé, et je dis ça parce que...
Merci aux séries, plutôt. Aux séries, parce que tout n'est pas bon à prendre dans la télé, il ne faut pas exagérer.
Voilà, tout à fait. Est-ce que vous faites sur la littérature? Moi, j'ai l'impression de l'avoir fait à mon niveau avec la télévision, en voyant l'influence que la télévision a sur la société par mimétisme.
Mais il y a beaucoup aujourd'hui de philosophes qui travaillent, notamment sur les séries télévisées, parce que c'est des formidables outils de construction d'un imaginaire collectif.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre ouvrage ou vos ouvrages?
Mon dernier
notamment
livre,
celui voilà, ce soir,
mon,
c'est...
Mon dernier livre s'appelle Le Laboratoire des cas de conscience. Il est publié chez Alma Éditeur, donc en 2012, l'an dernier. Okay. Voilà.
Merci
beaucoup.
À vous.
Merci.
Merci.
Toujours été de ceux qui tracent la route vers l'infini. Toujours été de ceux qui... Aujourd'hui c'est moi qui attends, les cheveux dans le vent, les yeux rivés vers l'infini. Tu es parti bord du Loiron, baiser jeté du pont, toute voix levée vers l'horizon. Je suis restée bord du Loiron, et j'ai gravé ton nom.
Les entonnoirs, les entonnoirs.
Bonsoir docteur, pouvez-vous vous présenter?
Oui, sur ce que je fais.
Oui.
D'accord. Donc en fait, je suis médecin au CHU de Lille. Je suis au niveau formation, je suis psychiatre et gériatre, et je m'occupe donc de patients qui ont une maladie d'Alzheimer, avec à certains moments de leur maladie peuvent avoir des troubles de comportement qui vont les handicaper. Donc on essaye de les prendre en charge à ce moment-là. Et je m'occupe également de patients qui ont des troubles psychiatriques et qui vieillissent avec ces troubles psychiatriques, et aussi dans ce cadre-là, qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire, un autre problème qui fait que ça devient compliqué de prendre en charge que le problème psychiatrique. Il faut s'occuper d'un peu de tout. Enfin, c'est mon activité.
Alors, ce soir, vous allez intervenir, vous allez être conférencier. Alors, quel va être votre propos par rapport à l'exclusion, par rapport aux personnes qui ont la maladie d'Alzheimer? Pensez-vous que d'abord, c'est une catégorie de population qui est mise à l'écart, qui est exclue
Oui, je pense que toute maladie qui fait peur a toujours tendance à exclure les gens qui en sont atteints. Également aussi les soignants qui s'en occupent. On voit ça sur la psychiatrie, mais on voit ça sur d'autres types de pathologies. Le patient Alzheimer, quand on dit patient Alzheimer, quand on dit à quelqu'un qu'il est atteint d'une maladie d'Alzheimer, très souvent les gens entendent c'est fini, je vais perdre la tête, je n'existe plus, je suis allé à l'écart de la société. Et les gens le pensent, et puis les proches le pensent également dans un certain nombre de cas si l'information concernant la maladie n'est pas assez précise pour qu'ils comprennent bien la maladie, ses conséquences, et qu'ils continuent à considérer la personne comme un être humain et pas simplement comme un malade. Hein.
Moi j'ai connu des personnes qui avaient la maladie d'Alzheimer, et c'était des cas lourds, et la prise en charge est quand même lourde.
La maladie d'Alzheimer, oui, j'entends. En fait, le problème, c'est que quand on parle de maladie d'Alzheimer, on parle à la fois de patients qui sont atteints avec un stade très très évolué de la maladie, hein, et puis d'autres qui sont à un stade très très débutant, et où il faudrait vraiment beaucoup beaucoup de connaissances pour s'apercevoir que c'est le début de la maladie, hein. Donc c'est le même terme qui va coller sur des gens très différents, et là ce dont vous parliez, c'est des gens qui sont à un stade malheureusement très évolué de la maladie, et c'est ça à quoi on pense en général quand on dit maladie d'Alzheimer. On pense à ce stade évolué, et on voit pas tout ce continuum sur plus de 10 ans d'évolution où la personne est pas à ce stade-là.
Pour conclure mon propos, ces personnes ont dû se faire hospitaliser parce que familialement, elles pouvaient plus rester à l'intérieur de la maison, quoi. C'était des cas lourds. Hein.
Sur les cas les plus lourds, effectivement, il peut y avoir besoin d'hospitalisation ou d'entrée en maison de retraite. Mais la grande majorité des gens atteints de maladie d'Alzheimer sont encore à domicile, et c'est leur famille et leurs proches qui s'en occupent. D'où une bonne connaissance nécessaire de la maladie pour que ça se passe bien.
Est-ce qu'il existe des thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer?
Alors ça, c'est un vaste sujet. À l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement qui guérisse de la maladie d'Alzheimer ou de traitement qui arrête l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Après, tout ce qui est prévention, on est plus sur des choses beaucoup plus générales que la maladie d'Alzheimer. Ça va être faire attention à tout ce qui est tabac, alcool. Ça va être faire attention à bien prendre en charge, si on est atteint d'une hypertension artérielle, sa tension artérielle, son diabète, des facteurs de risque qu'on appelle vasculaires, et qui, si on les équilibre bien, vont en fait limiter le risque de développer une maladie du cerveau comme d'autres maladies, en fait. Et la maladie d'Alzheimer fait partie de ces maladies qui peuvent être alors peut-être pas prévenues, mais en tout cas on limite le risque.
On a donc, vous l'évoquiez au début, population vieillissante, et notamment même parmi les populations atteintes de troubles psychiques. On a des chiffres dans le Nord-Pas-de-Calais, sur la France, et aussi les moyens qui sont mis en œuvre justement pour l'accompagnement de ces personnes.
Alors, c'est à nouveau une question vaste. Disons que c'est une maladie très fréquente, la maladie d'Alzheimer, terme qui reprend en fait tous les maladies d'Alzheimer et apparentées, c'est-à-dire que ça touche la maladie d'Alzheimer et les autres formes en fait de troubles cognitifs. On considère à l'heure actuelle, pour donner un chiffre sur la France, qu'il y a 400 nouveaux cas de maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée par jour en France. Donc ce qui est une somme en fait relativement importante. Donc si on raisonne au niveau individuel, ça veut dire que c'est c'est quasiment tout le monde connaît quelqu'un d'atteint d'une maladie d'Alzheimer ou apparenté. Ça ne veut pas dire que tous ces gens sont en difficulté, que tous ces gens sont en souffrance. Après, sur les moyens, la famille, des aides extérieures, et puis parfois une hospitalisation ou une entrée en structure quand ça devient difficile. Mais c'est un ensemble. En fait, on essaye au maximum maintenant de prendre en charge les gens à domicile. Et bon, si je peux, il y avait une question auxquelles j'ai pas répondu tout à l'heure concernant la façon dont j'allais orienter mon topo aujourd'hui. En fait, l'idée c'était de se baser sur ce que disait la philosophe, et notamment donc le regard donc qu'on pouvait avoir au travers de la littérature. J'ai essayé de trouver des petites vignettes cliniques qui concernaient des patients Alzheimer et sur lesquelles on avait un regard soit d'un soignant, soit d'une famille, et puis de faire un parallèle entre ce qui était dans Kafka par exemple avec la métamorphose et puis donc le regard de quelqu'un qui est atteint de Alzheimer et qui pourrait être considéré comme quelqu'un d'anormal par son entourage ou par des soignants, et du coup pas bien pris en charge, pas bien pris en soin. Donc changer le regard, ça change aussi la place de la personne dans la société.
Je sais pas si vous avez des connaissances à ce sujet, mais est-ce qu'on a déjà écrit un bouquin sur une personne qui avait la maladie d'Alzheimer par exemple?
Oui, oui, il y a
des cas.
Jacques Chirac, je suis pas sûr qu'il ait écrit un bouquin sur ça. Mais disons qu'il y a beaucoup, si vous regardez sur Internet, il y a beaucoup, en fait, de familles ou de gens qui ont été touchés par leurs proches, par la maladie d'Alzheimer et qui ont essayé, en fait, d'utiliser l'écriture pour décrire leurs souffrances, leurs difficultés, ce qu'ils veulent changer ou ouvrir la connaissance de la maladie. Il y a même des patients atteints de maladie d'Alzheimer qui ont essayé de transmettre, en fait, ces informations sur leur vécu de l'intérieur concernant la maladie. Donc, ce qui peut être intéressant pour mieux connaître la vision de l'autre côté du miroir, si je peux exprimer comme ça.
Il y a peut-être des médecins aussi qui ont écrit des
oui, oui, il y a souvent c'est souvent des proches. Donc ça peut, s'il y a des médecins qui écrivent, souvent c'est quand ils ont été eux-mêmes confrontés à ça. Après, sinon c'est de la littérature médicale. Il y a énormément de choses qui sont écrites sur la maladie d'Alzheimer, sur le vécu de la personne, sur la souffrance, sur si vous tapez sur Internet, c'est des centaines et des centaines d'articles qui concernent cette maladie.
On n'est pas sur le soleil vert, non?
Pardon?
On n'est pas sur le soleil vert.
Le soleil vert, c'est, oui. Il y a aussi une notion d'écologie derrière. Disons que dans le soleil vert, à la fin, on emmène les gens, mais pas automatiquement que les vieux. On emmène tous les gens qui sont à l'exclusion de la société, donc que ça soit les pauvres, les malades au sens large, tous ceux qui sont pas productifs au sens de ce film, vers une usine. Bon, il y a un parallèle bien sûr avec le nazisme qui est assez fort, et donc les gens qui sont considérés comme inutiles à la société sont en fait envoyés dans des camps. Ils servent, alors dans Soleil Vert c'est de nourriture, je crois, voilà. Mais c'est pas que la personne âgée dans ce film Soleil Vert, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de quelle place la société laisse à des personnes âgées, tout en sachant que la maladie d'Alzheimer ne touche pas que des personnes âgées, ça peut toucher aussi des gens de beaucoup plus jeunes.
Là, Erika, il n'y a qu'un micro et on est tous en train de se battre, là, donc je vais faire deux questions en même temps. Donc, excusez-moi. Donc, ce sera deux questions. Si vous avez oublié la deuxième, je pourrais vous la rappeler rapidement.
Pas de problème.
Ma première question, c'est en fait par rapport à un documentaire que j'avais pu voir sur le service public de la télévision, France 3, un magazine qui s'appelait Hors Série, qui parlait de l'eau et qui, en fait, voyait un lien entre l'aluminium qui permet de retraiter les eaux usées et la maladie d'Alzheimer. Donc, ça, c'est la première question. Donc, j'aimerais bien votre point de vue. Et vous qui êtes gérontopsychiatre, j'ai pu lire, là actuellement il commence à faire chaud, donc on reparle de la canicule de 2003, ouais. Il y a le plan d'alerte canicule, et j'ai cru comprendre, d'après ce que j'ai lu, que les personnes qui prenaient des médicaments type neuroleptiques, anxiolytiques, benzodiazépines, étaient plus sensibles au niveau de la mortalité en 2003. Des statistiques, ils se sont rendus compte que il y avait une part plus élevée de morts chez les gens qui prenaient ce type de traitement. Donc peut-être, est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que j'ai mal compris? Qu'en pensez-vous?
Alors, je vais déjà répondre sur la première partie de la question concernant l'aluminium et risque d'Alzheimer. Alors, en fait, ça fait partie d'une multitude d'hypothèses concernant la maladie. Il y a des dizaines d'hypothèses sur la cause, en fait, de cette maladie d'Alzheimer. Donc, l'aluminium fait partie de ces hypothèses, mais n'est pas prouvé du tout à l'heure actuelle comme cause en fait de la maladie d'Alzheimer.
C'est ce qu'on appelle des déterminants environnementaux, c'est ça ?
C'est ce qu'on recherche en fait. On considère que la maladie d'Alzheimer est une maladie multifactorielle où il y aurait des éléments intrinsèques, d'autres éléments extérieurs. On parlait de facteurs de risque vasculaire tout à l'heure et des éléments environnementaux. Donc il y a du génétique, de l'environnemental, du voilà, mais c'est très très large, mais pour l'instant ça reste que des hypothèses. Donc on peut, à l'heure actuelle, il n'y a absolument pas prouvé que l'aluminium entraîne des maladies d'Alzheimer. À l'heure actuelle, on n'a aucune preuve là-dessus.
Et qu'est-ce qu'on doit faire pour prouver une hypothèse, pour passer de l'hypothèse à la preuve, comment on doit faire?
À la preuve finale, il faudrait donner de l'aluminium à des gens et voir si ça déclenche la maladie, quoi. Donc ce qui est éthiquement un peu un problème, quoi. À moitié on donne de l'aluminium, à l'autre moitié on donne pas d'aluminium et on voit ce qui se passe. Je suis pas sûr que l'étude va se faire demain.
Alors, sur la deuxième partie,
concernant en fait les médicaments et la canicule. Bon, alors là on est loin en fait de la maladie d'Alzheimer. Globalement, disons que les gens qui ont beaucoup de traitements sont des gens fragiles. La canicule entraîne des déshydratations, donc une plus grande hypersensibilité à tous les traitements en général et pas simplement les psychotropes. Et donc, ils continuent à prendre les traitements, mais ils s'hydratent mal. Donc, je ne crois pas que ce soit plus une classe de médicaments qu'il y a une autre. Moi, j'avais lu aussi beaucoup sur les anti-inflammatoires à ce moment-là. Voilà, le tout, c'est qu'en fait, c'est des gens qui sont isolés et qui, du coup, n'arrivent pas à faire face du fait de leur maladie ou de leur âge au stress concernant supplémentaire lié à la canicule et donc à la déshydratation qui en découle. Et donc du coup les médicaments sont aussi le reflet de leur état général. Donc là à nouveau, c'est difficile de faire un lien direct entre un médicament et une cause. Voilà. Ceci étant dit, ça fait deux jours qu'il fait chaud, je pense qu'on a encore un peu de marge pour la canicule.
Alors j'en profite pour saluer tous les résidents de la résidence Quiétude chez qui on avait été voilà. Juste pour dire bonjour, on a travaillé avec eux et vous dire merci également pour
merci de
ces réponses
très de vos questions. Au revoir.
Les entonnoirs, les entonnoirs.
Thank you. came Father McKenzie, whipping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, all the lonely people. Look at all the lonely people. Look at all the lonely people. Where do they all come from? Ooh, ooh, where did all the lonely people? Ooh, where did all the lonely people? Ooh,
les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
C'est les entonnoirs parce qu'ils donnent plus fou dans la tête et ça gratte des poux sur ma tête et je viens plus fou, c'est ça les entonnoirs.